Radio Indundi Culture, le journal.
Claire Kagundiye.
Radio Indundi Culture, c'est le moment du journal dont voici les grandes lignes. Des responsables de partis politiques et administratifs de la province Gitega craignent un certain népotisme dans la gestion de la chose publique, du moment que presque tous les secteurs de la vie sont administrés par des membres du parti au pouvoir, malgré un climat politique au beau fixe. Grogne des vacataires de la commune Nyabitsinda, province Ruigi, suite au non-paiement jusqu'à nos jours de leur prime d'encouragement du second trimestre de l'année scolaire 2023-2024. Adoption par le Burundi d'un recueil de procédures opérationnelles standards pour la prévention et la prise en charge des victimes basées sur le genre. Un ouf de soulagement pour le ministère en charge du genre qui regrette l'utilisation d'approches différentes par des intervenants de ce secteur. Voilà pour le sommaire. Mathieu Haounaye, c'est à la cabine technique.
Radio Indundi Culture.
Encore une fois, bienvenue. Des responsables de partis politiques et des administratifs de la province Gitega se disent préoccupés par la présence quasi exclusive des militants du parti au pouvoir dans la gestion de presque tous les services et des divers secteurs de la vie à Gitega. Ils craignent un certain népotisme. Toutefois, ils notent un climat stable et positif qui règne dans les provinces de la région du centre du pays. Le chef de cabinet du gouverneur de la province Gitega souligne que le climat politique est au beau fixe grâce au cadre de dialogue permanent entre les partis politiques avec tous les autres partenaires impliqués. Depuis Gitega, Nissé Nangouvou, correspondance.
Les responsables de certains partis politiques actifs dans les provinces de la région centre du pays, tout comme les administratifs, font savoir que le climat politique est en général favorable. Sinda Egaya Tanaz, responsable du parti UPDZ Amiwanga dans la province d'Umuranzia, indique que depuis le lendemain des élections de 2020 jusqu'à la veille du rendez-vous électoral de 2025, les partis politiques ne sont pas inquiétés dans leurs activités quotidiennes. Il souligne cependant qu'en ce moment où les services dans tous les secteurs de la vie dans cette circonscription sont dirigés par des militants du parti au pouvoir, cette situation ne le rassure pas. La même inquiétude se fait nettement constater au sein du parti Sawanya Frodewu. Le président du parti Sawanya Frodewu dans la province élargie de Gitega, Manilakiza Daniel, dénonce préalablement la composition des commissions tant provinciales que communales en charge des élections de 2025, où il fait remarquer que leurs membres sont largement issus du parti au pouvoir CNDD-FDD. Le même responsable politique poursuit en pointant du doigt certains responsables administratifs dans la province Karoussi au niveau communal et à la base qui pratiquent de la discrimination dans les services rendus à la population, les militants des partis de l'opposition devenant souvent victimes. Il les appelle plutôt à servir équitablement tous les citoyens en mettant en avant l'intérêt de tout un chacun. Le secrétaire du parti CNDD dans la province élargie de Gitega, Georges Chimilimana, souligne quant à lui que leur organisation politique éduque les militants au respect des membres des autres partis et appelle ainsi les responsables des partis politiques inquiétés dans leurs activités d'appréhender les auteurs pour être corrigés. Dans l'administration, le chef de cabinet du gouverneur de la province Gitega, Gérard Nivigira, dit que le climat politique est en général au beau fixe et signale que cet état des lieux se présente ainsi grâce au cadre de dialogue permanent des partis politiques initié avec l'appui des partenaires au développement dans cette circonscription. Anissé Nangouvou, Gitega, Radio Inun Kutura.
Anissé Nangouvou, des vacataires de la commune Nyabitsinda, province Ruigi, déplorent le non-paiement jusqu'à présent de leur prime d'encouragement du second trimestre de l'année scolaire 2023-2024. Ils regrettent que l'argent collecté à cette fin a par la suite été utilisé pour d'autres fins. Ces vacataires proposent la gestion de la collecte et la distribution de leur prime qu'elle soit confiée à une commission qui en fera le suivi. L'administrateur communal tranquillise toutefois que ces vacataires recevront leur dû au mois de janvier prochain. Les précisions de Pantaléon Nakarutimana.
Ces 14 vacataires de la commune Nyabitsinda en province d'Oruyigi réclament leur salaire à hauteur de 3 millions de francs burundais à la direction communale de l'éducation ainsi qu'à la commune elle-même qu'ils auraient dû percevoir en fin de second trimestre de l'année scolaire écoulée de 2023-2024. Certains vacataires proposent que leurs primes soient confiées à qui de droit mais aussi qu'il y ait un suivi pour s'assurer du bon déroulement de cette tâche. L'administrateur communal Anastasie Naïchakie précise que la commission créée au sein de la direction provinciale de l'éducation n'a pas pu collecter l'argent de ces vacataires et qu'une autre commission a été créée dans la direction communale de l'éducation mais que l'argent a été utilisé pour d'autres besoins urgents de la commune. La commission affirme que l'argent a été comptabilisé et que ces salaires proviendront des impôts et taxes qu'il leur sera distribué au mois de janvier. Ces volontés apprécient ces précisions des autorités administratives. Néanmoins, ils demandent que cette période soit respectée du moment qu'il leur a fallu beaucoup d'efforts et de la patience pour continuer à enseigner. Ils apprécient également qu'au cours de l'année scolaire et en cours, ils reçoivent les réprimes d'encouragement à temps. Depuis Luigi, Pantaleon Nakarutimana, Radio Indonesia Culture.
Une maladie non encore connue attaque le petit pois vert dans la province de Kayanza, ce qui conduit à une hausse de prix du kilo de petit pois qui oscille entre 10 et 12 000 francs burundais au marché central de Kayanza. Des producteurs agricoles demandent la disponibilisation de produits phytosanitaires pour une augmentation de la production. Jean Nahimana, les détails.
Lors de notre passage dans la mi-journée de son mardi au marché central d'Okayanza, nous avons constaté que le petit pois vert est une denrée devenue de plus en plus rare dans son marché par rapport aux années antérieures. Au moment où le kilo s'achetait entre 4 000 et 5 000 francs, il y a cela entre 2 et 3 ans, aujourd'hui il s'obtient à un prix variant entre 10 et 12 000 francs le kilo. Interrogés à ce propos, les commerçants de cette denrée disent que le petit pois est en petite quantité aujourd'hui sur le marché suite à une maladie qui a atteint cette culture, laquelle finit par sécher quand elle est encore jeune. À cet effet, les uns et les autres, et surtout les agriculteurs, demandent que des produits phytosanitaires contre cette maladie soient rendus disponibles, ce qui viendra de nouveau accroître la production et partant, la baisse des prix sur le marché s'ensuivra. S'exprimant à ce propos, Adelenion Saba, le directeur du bureau provincial, ayant en charge le secteur agricole dans ses attributions, précise que la décroissance de la production du petit pois vert a été consécutive à une maladie qui a effectivement atteint cette culture il y a quelques années. À ce moment, fait-il remarquer, certains agriculteurs ont abandonné cette culture qui a cédé place à celle du maïs. Toutefois, Adelion Saba fait savoir que la maladie a aujourd'hui disparu et les services concernés exhortent les agriculteurs à reprendre cette culture du moment qu'elle rapporte également de l'argent, ajoutait-il. Signalons somme toute que le prix du petit pois vert a atteint entre 20 et 22 000 francs au cours des 4 derniers mois au marché central de Kayanza. Depuis Kayanza, Jean Nahiman pour la radio Indundi Culture.
Le ministère ayant l'intérieur dans ses attributions révèle que depuis 2017 jusqu'au 15 décembre 2024, plus de 13 000 sur 18 000 réfugiés burundais qui sont en Tanzanie ont regagné le pays. Le secrétaire permanent du dit ministère, lors de la 25e réunion de la commission tripartite et de la 29e réunion du groupe de travail technique de la commission tripartite sur le rapatriement volontaire des réfugiés burundais en Tanzanie, tenu à Bujumbura ce mardi, Théophile Daloufatié précise néanmoins que malgré des défis rencontrés dans ce processus de rapatriement, d'autres moyens et techniques sont en train d'être menés afin d'avoir un nombre élevé de réfugiés qui regagnent le bercail. Je vous propose de l'écouter.
Au 1er décembre 2023, une telle réunion s'est tenue à Dar es Salaam, en République unie de Tanzanie, dans le cadre de réfléchir et trouver ensemble les voies et moyens pouvant nous amener à trouver des solutions aux problèmes qui hantent nos frères et sœurs qui sont encore en situation de réfugiés. En dépit des difficultés rencontrées dans le processus de rapatriement, depuis 2017 jusqu'au 15 décembre 2024, plus de 250 000 rapatriés en provenance de tous les pays d'Asie ont été accueillis et installés dans les communautés. Parmi eux, plus de 180 000 rapatriés, dont 13 592 en 2024 seulement ont été rapatriés en provenance de la République et de Tanzanie. Pour inciter les réfugiés burundais encore en asile de regagner leur chère patrie, les initiatives multiformes doivent être entreprises dans les communautés pour renforcer les solutions durables et prévenir le mouvement pendulaire qui s'observe et encourage une migration régulière et autorisée. Un financement adéquat, tout en soutien technique, financier et logistique de la part des partenaires au développement et du bureau régional du ACR s'avère nécessaire.
Radio Indondi Culture.
Radio Indondi Culture, poursuivant ce journal. L'armée nationale a fait passer ce mardi à travers toute l'étendue du territoire national un concours physique pour candidats sous-officiers qui veulent intégrer le corps de défense. Ils ont passé un test physique 10 jours après le concours intellectuel. Le porte-parole de l'armée, Gaspard Baratuzza, dit que la participation n'a pas été comme prévu, même avant la compilation des données de tout le pays. Je vous prie de l'écouter.
Il est organisé sur tout le territoire national, les chefs-lieux de province du pays, un concours de tests physiques des candidats. Il s'agissait d'une course de 6 km à côté du test intellectuel qui a été organisé il y a 10 jours. Les candidats ont passé l'examen de mathématiques et de français. On va faire la sommation, deux épreuves intellectuelles et physiques pour voir les meilleurs qui seront sélectionnés pour aborder, commencer l'entraînement à l'école de sous-officiers se trouvant à Bururi. De Bujumbura, les inscrits étaient au nombre de 60. Au test intellectuel, 4 n'ont pas pu répondre, donc 75 avaient passé le concours de mathématiques et français. Au test physique, il y a eu un abandon et un qui est arrivé tard et 3 qui ne se sont pas présentés. Il faut dire que 70 ont pu passer le test organisé, que ce soit en français, mathématiques et test physique. On a déjà des résultats en français et en mathématiques. Il faut dire que chaque candidat saura s'il n'y a pas de réclamation, bien sûr.
Gaspard Baratuzza, il est le porte-parole de l'armée nationale. Le Burundi vient d'adopter un recueil de procédures opérationnelles standards pour la prévention et la prise en charge des victimes basées sur le genre. La directrice générale du genre au sein du ministère ayant le genre dans ses attributions, Donatienne Gilukwishaka, signifie que désormais tous les intervenants du secteur devront exploiter ces procédures, ce qui remédie à l'utilisation de différentes approches élaborées en cas de violence basée sur le genre faites par ces intervenants. Elle souligne que le plus important reste toutefois la mise en application de ces procédures. Suivez.
C'est un recueil sur des procédures opérationnelles standards pour la prévention et la prise en charge des victimes de violences basées sur le genre. Nous sommes le troisième pays en Afrique qui vient de mettre en place ces procédures et c'est vraiment une réussite pour nous. Oui, avoir un recueil, c'est bon, avoir les procédures, c'est une étape, mais le plus important, c'est de les mettre en application. Ça va nous aider à faire de la même façon, à offrir de la même façon les services dont les victimes ont besoin. Ça vient remédier aux défis que nous, tous les intervenants avaient, de développer différentes approches avec son approche. Mais aujourd'hui, nous savons que chacun doit respecter les procédures, ces procédures-là, dans la prévention et dans les actions de réponse aux cas de violence basées sur le genre.
Le Conseil national de la communication du Burundi annonce que le code de conduite des médias en période électorale est en vigueur depuis le 9 décembre de l'année en cours. Espérance Ndaïdzeye, présidente du CNC, dans un point de presse ce mardi, a signalé que les responsables des médias ont approuvé ce code de conduite sans forcing. On l'écoute.
Le Conseil national de la communication, CNC, voudrait informer le public qu'à partir du 9 décembre 2024, un code de conduite des médias en période électorale est en vigueur. Nous nous réjouissons qu'au terme d'intenses et riches échanges, un texte consensuel a été adopté par 59 médias sur 60 représentés qui y ont apposé leur signature. En signant le code de conduite, les médias se sont engagés, entre autres, à diffuser et publier des informations relative au processus électoral en général et la campagne électorale en particulier, en tenant compte du pluralisme et de l'équilibre de l'information et à ne diffuser que des informations dont la véracité, l'exactitude et l'objectivité sont établies. Les médias se sont en outre engagés à s'interdire de diffuser des résultats partiels des circonscriptions électorales sans le coup d'envoi de la CENI ou de ses démembrements. Il est également interdit aux médias de diffuser ou de publier tout commentaire partisan, malveillant ou tout dénigrement à l'égard des partis politiques, des indépendants et de leurs programmes. Le Conseil national de la communication saisit cette occasion pour fustiger ceux qui ont voulu manipuler l'opinion, faisant croire que la signature du code de conduite a été le produit du forcing, en niant sciemment les faits alors qu'ils sont têtus et sacrés.
Radio Indondi Culture FM, chronique santé.
Dans la chronique santé que la rédaction de la radio Indondi Culture vous propose chaque mardi. Aujourd'hui, nous revenons sur les conséquences des kystes ovariens. Le gynécologue Innocent Daikunda précise qu'il peut y avoir rupture du kyste ovarien et que cela peut entraîner des complications. Le gynécologue indique que la prévention des kystes est quasi impossible du moment que la cause exacte est inconnue. Par contre, que les complications peuvent être prévenue par les consultations précoces lorsqu'une femme ressent des douleurs dans le bas-ventre. La chronique santé est signée Roseline Mounet-Zero.
La maladie des kystes ovariens peut être causée par l'incompatibilité des deux hormones féminines, les estrogènes et les progestérones, pendant le cycle menstruel, la malnutrition, le stress, ainsi de suite, comme le précise docteur gynécologue Innocent Daikunda. Docteur Daikunda signale que cette maladie a pas mal de conséquences, y compris la conception chez la femme atteinte de cette maladie.
Les conséquences de ces kystes, souvent, il y a des complications qu'on appelle des complications aiguës. Le kyste peut se rompre, on appelle sa rupture. Le kyste peut se tordre, on appelle sa torsion. Le kyste aussi peut saigner à l'intérieur, on appelle des kystes hémorragiques. Et le kyste aussi peut s'infecter. Quand il s'infecte, donc, il donne une infection autour du kyste qui peut affecter toute la cavité abdominale et causer ce qu'on appelle une péritonite, c'est-à-dire une infection généralisée de l'abdomen. Ces kystes aussi peuvent avoir des complications par le fait que les femmes, par exemple, qui ont des kystes qui sont très gros, bilatéraux, ça va entraver l'ovulation et donc ce sont des femmes qui vont concevoir très difficilement. Les femmes qui sont enceintes, qui ont des kystes qui sont trop gros aussi, il y a un risque accru que ces femmes fassent une fausse couche. Parce qu'il y a des hormones qui devraient entretenir la grossesse et qui ne sont plus produites parce que le kyste est là.
Docteur Innocent explique qu'il n'y a pas de moyen de se prévenir contre cette maladie, mais il interpelle les femmes à chaque fois qu'elles ressentent ces symptômes de consulter le médecin.
Il n'y a pas moyen de prévenir le kyste ovarien parce que souvent le kyste ovarien chez la femme, c'est tout le kyste organique, on ne connaît pas la cause exacte. Donc il n'y a pas de façon de prévenir les kystes, mais plutôt il y a la plus belle façon de prévenir les complications de ces kystes. Et la seule façon, la belle façon de le faire, c'est de consulter précocement. C'est-à-dire, quand on a une petite douleur, quand on ne se sent pas bien dans le bas-ventre, quand on sent une petite pesanteur, il faut aller consulter immédiatement pour que ces kystes puissent être découverts très précocement. Parce que quand on les découvre très tardivement, souvent on les découvre à un stade où ils sont déjà compliqués.
La maladie des kystes ovariens est guérissable et la femme qui en a souffert et guérie peut concevoir de nouveau. La plupart des kystes fonctionnels mesurent entre 1,5 cm de diamètre. Quelques-uns dépassent 5 cm.
Ainsi prend fin cette édition de la soirée de ce mardi. Merci, chers auditeurs, de nous avoir prêté une oreille attentive. Restez branchés sur nos ondes.
Claire, ya, Karundiye.